attends, j'ai oublié un truc.
Qu'est-ce que c'était?
C'est.
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Oh, je sais plus.
Je pensais que vous vouliez que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lilin.
Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Linguam nostram, in qua nati sumus.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison.
Le troisième tome des Mémoires de guerre, Le Salut, 1944-1946, de Charles de Gaulle, s'est imposé au programme des classes de terminale L, L pour littéraire. Un collectif de professeurs de lettres alors se braqua tout en pétitionnant. On peut voir dans leurs gestes une résistance à quelques Kim Il-sung-ri de la Ve République, du nom de Kim Il-sung, 1912-1994, fondateur de l'actuel régime nord-coréen, dont les œuvres sont enseignées à qui mieux mieux, du berceau à la tombe. On peut aussi considérer, c'est selon, que les malheureux professeurs de français qui protestent sont des corporatistes ayant intégré la panne de transmission jusqu'à l'incarner, lorsqu'ils proclament dans leur petit texte vengeur « Proposer De Gaulle aux élèves est tout bonnement une négation de notre discipline. Nul ne songe à discuter l'importance historique de l'écrit de De Gaulle. La valeur du témoignage est à proportion de celle du témoin. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? De littérature ou d'histoire ? Nous sommes professeurs de lettres. Avons-nous les moyens ? Est-ce notre métier ? De discuter une source historique, d'en dégager son souffle de propagande mobilisateur de conscience nationale. À ce compte, ce carteron de timorés envahis par la hargne, la rogne et la grogne n'a plus qu'à refuser d'enseigner d'autres sources historiques. Jules César, propagande anti-gauloise, Agrippa d'Aubigné, n'est-il pas question, quelle horreur, des guerres de religion dans les tragiques ? Molière, il a le toupet sous couvert de théâtre d'enfoncer le parti dévot. Chateaubriand, souffle anti-napoléonien. Aragon, complainte pour l'orgue de la nouvelle barbarie. Quel crève-cœur pour un professeur. Plutôt que de continuer dans le registre de la polémique, nous allons tenter, à tire-ta-langue, de donner l'exemple, tout l'exemple, rien que l'exemple, donner bêtement l'exemple, pour paraphraser Peggy. Nous allons examiner la matière avec Adrien Le Bihan, l'auteur de De Gaulle écrivain, réédité pour la collection de poches Pluriel, après une première parution en 1996 chez Fayard sous le titre « Le général et son double ». Adrien Le Bihan, considérez-vous De Gaulle comme un écrivain qu'il est loisible d'enseigner, ou le considérez-vous comme un amateur, un imposteur, un politique d'abord, pour reprendre le mot d'ordre de l'Action française, un loup de l'action déguisé en agneau du style et dont il faudrait protéger tous les chaperons rouges de nos terminales littéraires, Adrien Le Bihan.
C'est tellement difficile de définir un écrivain. Il doit se réinventer lui-même à chaque livre qu'il écrit. Moi, évidemment, ayant écrit De Gaulle écrivain, je serais malvenu à dire que je pense qu'il ne l'était pas. Ce qui m'a beaucoup étonné dans le passage que vous avez lu, dans cette espèce de manifeste dont j'avais pris connaissance aussi...
Cette pétition, oui.
Ce qui m'a étonné, c'est considérer les mémoires de guerre du général De Gaulle comme un témoignage. La différence entre mémoire et témoignage devrait être évidente pour tout professeur de lettres. Chateaubriand n'a pas écrit les souvenirs d'outre-tombe. Entre mémoire et témoignage, il y a justement tout l'écart dans lequel la littérature se faufile.
Et néanmoins, Adrien Le Bihan, dans votre réponse, alors que vous veniez au secours, même s'il n'en a pas besoin, du général écrivain. Vous avez eu cette phrase « Un écrivain se réinvente à chaque livre », avez-vous dit, ou quelque chose de la sorte.
Oui.
Or, il semblerait que, là, cette formule condamne De Gaulle, qui ne s'est pas réinventé à chaque livre. Au contraire, on a l'impression qu'il a écrit parfois toujours le même livre, non ?
Non. Son premier livre est très différent de ceux qui suivent. Tous ceux qu'il a écrits dans l'entre-deux-guerres, ils sont différents les uns des autres. On reconnaît le style du personnage, bien qu'il évolue. Mais non, on ne peut pas dire qu'il ait écrit
parce que
tout dans le même livre.
Je prends au hasard le fil de l'épée, qui doit dater de début des années 30, 32 peut-être.
Oui, début des années 30.
Le fil de l'épée, où il parle de l'esprit militaire, de toute cette force incomparable. Les soldats, depuis la guerre, l'ont négligée passablement. Il eût fallu, pour la raviver, une sorte de concentration matérielle et morale à quoi se prêtait mal l'état des choses. L'armée française, étirée à l'extrême par cette transformation, perdait en vigueur interne ce qu'elle gagnait en extension. Cette phrase, du début des années 30, on a l'impression qu'on en entendait le roulis, si j'ose dire, à la fin des années 60, non ?
Mais si vous prenez la discorde chez l'ennemi, c'est différent. Si vous prenez La France et son armée, il y a un magnifique diptyque opposition entre les Français et les Allemands, qui est très différent, qui se situe un peu entre Valéry et Giraudoux.
Et Adrien Le Bihan, précisément, il faut peut-être tresser une sorte de généalogie littéraire. De Gaulle, sans se réclamer forcément d'eux, certaines beaux esprits ont dit que c'était un peu une traduction du latin, mais De Gaulle, vous avez cité Giraudoux, on pense plutôt à Chateaubriand ou à d'autres écrivains que Giraudoux. Enfin, vous avez fait ça par provocation, j'imagine, Adrien Le Bihan.
Un petit peu, et puis parce que De Gaulle aimait bien Giraudoux et considérait que, à la fin des années 30, c'était bien qu'il y ait un prestidigitateur. Et je trouve que c'est très joli, ça, de la part de Gaulle.
Dans votre livre, on trouve quelques moments étonnants, même si les spécialistes le savaient, et en particulier les relations qui ont pu unir Charles de Gaulle à d'autres écrivains. Il était comme un écrivain parmi les écrivains. Et parmi ces écrivains, une sorte de rapprochement, alors qu'on pense toujours à Mauriac, etc., mais non, un rapprochement extraordinaire semblait s'être opéré jusqu'à la fin avec Pierre-Jean Jouve. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette relation d'écrivain à écrivain entre Pierre-Jean Jouve et Charles de Gaulle, Adrien Le Bihan ?
Il y aurait beaucoup à dire. C'est une relation qui a commencé d'abord du côté de Jouve. Lorsque Jouve est un de ceux... On dit que l'appel de 18 juin, un peu de gens l'ont entendu. Des gens importants l'ont quand même entendu. Et en particulier Pierre-Jean Jouve, lorsque, en pleine débâcle, il se trouvait dans un château en Auvergne, chez des gens qui étaient favorables d'avance à la collaboration. Et quand il a entendu l'appel du 18 juin, ça a été pour lui, comme il dit, le souffle après l'asphyxie. Et il a écrit ça dans un texte qu'il a intitulé « L'homme du 18 juin » en 1945. Et c'est cette année-là, De Gaulle, qui a évidemment connu ce texte, et su ce que Jouve avait édité en Suisse, notamment, par exemple, les discours de Danton. De Gaulle lui a envoyé à ce moment-là un télégramme pour le remercier de ses écrits. Et ensuite, les deux hommes ont correspondu jusqu'à la mort du général. On parle beaucoup des relations entre De Gaulle et Malraux, des relations entre De Gaulle et Mauriac. Pour moi, je vois un vrai De Gaulle, un De Gaulle secret, plus présent dans ces relations non affichées, ni d'un côté ni de l'autre, avec Jouve.
Et dans votre livre, vous citez des phrases de De Gaulle qui sont presque de l'affection au bord du tombeau à Pierre-Jean Jouve, où il dit qu'il se sent de plus en plus proche de lui. C'est très étonnant, ce frémissement à peine crypté dans l'écriture de Charles de Gaulle. Il s'agit évidemment d'envoi ou de lettres. Il ne s'agit pas du De Gaulle corseté des discours, des messages et des mémoires. Mais là, on le sent qui palpite, n'est-ce pas, Adrien Le Bihan ?
Ah oui, tout message de Jouve le fait palpiter, et c'est réciproque. Et Jouve, après la mort de De Gaulle en 70, a écrit un très beau texte, très court, il s'appelle « Mémoire », où il parle de Gaulle, et où il dit « C'était un admirable écrivain ». Mauriac et Malraux ne se sont pas risqués à écrire cela.
Et vous avez aussi lu, j'imagine, Adrien Le Bihan, ce petit livre d'une rare méchanceté étincelante, publié en 1959 par Jean-François Revel, et qui s'appelle « Le style du général ». Vous n'avez pas lu ce livre ?
Je l'ai lu, mais je l'ai oublié.
c'est un livre qui vraiment épingle tous les tics de langage ou d'écriture du général, notamment la tautologie qui cite des discours « les musulmans sont des musulmans, ce qui reste à faire ». Enfin, il ne l'a pas manqué.
Si la France telle qu'elle est dans le monde tel qu'il est.
Voilà. Mais vous conviendrez De Gaulle est presque de la chair à pastiche. Il est reconnaissable entre tous et facile à imiter, même s'il n'est pas facile à égaler, Adrien Le Bihan.
Oui, et vous venez de l'imiter au début de cette émission en employant le mot « Carteron ». Si vous permettez, j'aimerais dire un mot de ce mot. Carteron a été beaucoup employé depuis que De Gaulle l'a utilisé dans ce fameux discours de 1961 pour condamner les généraux rebelles Sallanches, Salles, Jouot et Zeller.
Le 23 avril 61, il était dans son uniforme, oui.
En uniforme, oui, oui, oui. Et beaucoup de gens ont été surpris par ce mot que très peu de gens, personne peut-être n'employait.
Et alors on lui a cherché des poux dans la crinière en disant « mais un carteron, c'est le quart de cent, donc c'est 25 et non pas 4 ».
Et non pas 4. Or, De Gaulle avait déjà employé le mot « carteron ». Et il l'avait employé, c'était en 1940, dans un discours, pour désigner avec Pétain un carteron de généraux déshonorés. Le lien entre 1940 et la rébellion des quatre en Algérie était magnifiquement établi par ce mot carteron. Et en outre, De Gaulle, pour couper tout lien avec le chiffre 4, on pourrait toujours croire qu'il y avait quatre généraux déshonorés en 40, mais en 1953, pour condamner le traité de coopération européenne de défense CED de sinistre mémoire, De Gaulle avait dit, si je me souviens bien, les gouvernants ont enfermé dans une pièce un carteron de diplomates et de militaires. Et on dit « voici les experts ». Et ce carteron, c'était bien une poignée et non pas quatre. Donc, et alors le lien entre 40, 53 et 61 est extraordinaire. Avec carteron, on a une grande partie de l'histoire de France de 40 à 65.
Et ce général qui avait le sens de la formule, vous venez de le montrer, Adrien Le Bihan, ce qui semble étonnant, c'est qu'il est difficile de faire le distinguo entre ses écrits et ce qu'il a dit à l'oral, dans la mesure où, quand il parlait, il semblait réciter un texte par lui rédigé avant, puis appris par cœur. On retrouve à peu près, quand on le lit, on croit l'entendre, quand on l'entend, on croit le lire.
Oui, et ça c'est un phénomène unique dans la littérature. Dans les mémoires de guerre, il y a des fragments de ces discours qu'il met là sciemment. On ne peut pas séparer ces discours de ces mémoires. Néanmoins, si on lit les discours séparément, c'est un autre livre.
Dans ces mémoires, il procède à une sorte d'autre mise en abîme, puisqu'il lui arrive de citer Chateaubriand, qui semble être son inspiration principale, n'est-ce pas, Adrien Le Bihan ?
À mon avis, ce n'est pas tout à fait son inspiration principale. C'est un modèle pour lui. Il sait qu'il n'écrira pas comme Chateaubriand. Il ne tient pas à écrire comme Chateaubriand, je crois. Il s'en inspire, tout le monde le sait. Il a, paraît-il, recopié sur un cahier certaines phrases de Chateaubriand. Et il y a un passage dans les Mémoires de guerre où il cite Chateaubriand. Je peux lire ce petit passage. C'est dans à la fin du premier volume, l'appel. Et il écrit ceci, il vient de passer trois mois en Afrique, et il écrit, le 17 novembre, donc 1940, je quittais l'Afrique française libre pour l'Angleterre, par Lagos, Freetown, Bathurst et Gibraltar. Tandis que sous la pluie d'automne, l'avion rasait l'océan, j'évoquais les incroyables détours par où, dans cette guerre étrange, devaient désormais passer les Français combattants pour atteindre l'Allemand et l'Italien. Je mesurais les obstacles qui leur barraient la route et dont, hélas, d'autres Français dressaient devant eux les plus grands. Mais en même temps, je m'encourageais à la pensée de l'ardeur que suscitait la cause nationale parmi ceux qui se trouvaient libres de la servir. Je songeais à ce qu'avait pour eux d'exaltant une aventure aux dimensions de la terre. Si rudes que fussent les réalités, peut-être pourrais-je les maîtriser, puisqu'il m'était possible, suivant le mot de Chateaubriand, d'y mener les Français par les songes. C'est l'endroit du mémoire où il cite Chateaubriand. Et alors, il ne cite pas exactement la phrase que Chateaubriand, dans ses propres mémoires, oppose à Villèle, puisque Chateaubriand a écrit « Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par des songes, c'est ce qu'ils aiment. » De Gaulle, lui, ne porte pas de jugement sur les Français. Et en outre, il n'essaye pas de mener à la réalité par des songes. De Gaulle mène à la réalité par des songes, c'est ce qu'il veut. Et c'est pourquoi, alors que Chateaubriand ne fait qu'essayer, De Gaulle, au fond, pour lui, Chateaubriand, c'est le domaine du songe. Et à mesure que les mémoires de guerre avancent, la place des réalités est plus grande et la part de Chateaubriand est moindre. Julien Gracq a très bien dit que la politique chez Chateaubriand, c'est une fausse fenêtre dans ses mémoires. Et chez De Gaulle, il n'y a pas de fausse fenêtre.
Dans l'extrait que vous venez de lire, Adrien Le Bihan, un mot, lui, et résonne, c'est le mot « ardeur ». C'est très curieux, on a l'impression que ce De Gaulle est une sorte de grand pousset, si j'ose dire, qu'on pourrait suivre à la trace avec des mots cailloux. Et ardeur en est un, n'est-ce pas ?
Ardeur en est un, c'est vrai, oui. Gide de l'employer volontiers. Peut-être il employait pas. Même le verbe sous forme de verbe, ce qui arde.
Mais Gide était assez aussi familier de mots comme, qui disent exactement le contraire, comme par exemple la boulie, qui signifie cette espèce d'absence de volonté. De Gaulle, qui passait par des épisodes dépressifs, n'en laisse rien paraître dans ses écrits. Ses écrits sont une espèce d'exemple avec des mots en forme d'oriflamme le plus souvent, n'est-ce pas ?
Oui, mais il sait prendre ses distances. Par exemple, lorsque le moment du débarquement est venu, il écrit qu'il ne s'agit plus de chanter à la nation la romance de la grandeur.
Oui, c'est extraordinaire, cette façon de presque décrire, maintenant qu'il est révolu, un temps où il se faisait pour le meilleur une sorte d'oiseleur. Et d'ailleurs, les oiseleurs, on le retrouve dans un poème d'Aragon, pour dénoncer les mensonges de l'occupation. C'est exactement le contraire. Mais là, c'était des mythes pour la bonne cause. Et il en avait conscience d'avoir été, peut-être plus que de raison parfois, un enchanteur.
Je crois, oui. Un enchanteur, ce prestidigitateur que Giraudoux avait été.
Et alors, De Gaulle est extraordinaire aussi comme écrivain dans son art des portraits. Il a eu parfois juste quelques mots sur la fin. Il n'a pas pu terminer un portrait de Georges Pompidou, néanmoins parfaitement vachard, dans le tome inachevé. Et il le fait lors de sa visite fameuse à Staline, à Moscou, je pense que c'est en décembre 1944, oui. Il fait un portrait de Staline absolument extraordinaire, où on sent à la fois l'horreur et la fascination que lui inspire cette sorte de tyran des steppes. Adrien Le Bihan, non ?
Ah oui, c'est un des grands passages du tome 3 des Mémoires de guerre, et j'envie les professeurs de lettres qui auront à aborder les entretiens de Gaulle-Staline de décembre 1944. Un séjour qui a duré plus d'une semaine, ce qui est considérable. Staline accordait rarement autant de temps à une personnalité étrangère.
Alors de Gaulle était quasiment seul, même s'il était flanqué de Georges Bidault, qui comptait si peu à ses yeux. Et c'était donc une espèce de marchandage entre de Gaulle et Staline.
Juin était là, qui était chef d'état-major de l'armée, mais alors il est très difficile de savoir ce qu'il a dit au cours de ses entretiens. Je n'ai trouvé aucune trace de ça. Il doit y avoir une trace quelque part.
C'est le côté prestidigitateur de Gaulle qui est passé maître dans l'art de l'escamotage. Il ne s'agit pas de retoucher les photos comme le commissariat aux archives de sinistre mémoire dans l'ex-URSS, mais dans ses mémoires, il y a des gens qui disparaissent. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans ce petit livre Fachard dont je vous parlais, Le style du général de Jean-François Revel, Jean-François Revel note que quand le général de Gaulle parle du général Catroux, il écrit général avec un G minuscule. Mais quand il s'agit du général de Gaulle, puisqu'il parle de lui-même à la troisième personne du singulier comme César, eh bien là, il s'agit forcément d'un G majuscule. Mais vous pourriez peut-être, Adrien Le Bihan, nous donner à entendre. Et c'est du non-non, il n'y a pas de raison de le cacher pour les professeurs de lettres. Vous pourriez nous donner à entendre un très court extrait de ce portrait de Staline par Charles de Gaulle soi-même dans ses mémoires.
Staline était possédé de la volonté de puissance, rompu par une vie de complot, à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaines, subjuguant ou liquidant les autres. Et à la fin du portrait, si âpre était sa passion, qu'elle transparaissait souvent, non sans une sorte de charme ténébreux. Et ce charme ténébreux me fait penser à Gide dans son Dostoïevski, qui écrit « Il n'est pas d'œuvre d'art sans collaboration du démon », une phrase que de Gaulle a notée dans ses carnets. Le démon ici, évidemment, c'est Staline qui collabore sans le savoir au troisième tome des Mémoires de guerre.
Alors, sans dicter aux professeurs de lettres leur travail, Adrien Le Bihan, pourrions remarquer ce jeu extraordinaire dans ce que nous venons d'entendre sur le rythme ternaire. Mais un rythme ternaire qui ne vient pas comme une locomotive avec toujours la même musique. Un rythme ternaire qui, précisément, prend toute sa valeur parce que de Gaulle sait passer du rythme binaire au rythme quaternaire. C'est très intéressant de voir comment il agence précisément les substantifs et les adjectifs dans le court passage que vous venez de nous lire.
Oui. Alors, il y a un petit texte qui est un télégramme que je trouve extraordinaire, où il agence magnifiquement, c'est plus cette fois des substantifs, mais c'est un télégramme qu'il a envoyé au général de Lattre le 29 mars 1945. Au moment où il souhaite que les armées françaises occupent le plus d'Allemagne possible et prennent des gages pour les négociations ultérieures, celles qui auront lieu notamment aussi avec Staline. Et il écrit à Delattre, qui s'est un peu attardé, « Mon cher général, il faut que vous passiez le Rhin, même si les Américains ne s'y prêtent pas, parce qu'il y a des ponts à construire, et dussiez-vous le passer sur des barques ?» Il y a là une question du plus haut intérêt national. Karlsruhe et Stuttgart vous attendent si même il ne vous désire pas. Même si, et si même, dans le même télégramme, c'est un chef-d'œuvre.
Vous avez même, je crois, et j'en suis sûr, vous avez même été pisté le style du général, et cette fois-ci, dans le bon sens du terme, jusqu'au livre d'or d'Auschwitz.
Oui.
Vous aviez publié, je ne sais pas, voilà, une petite quinzaine d'années, dans un tout petit livre à 10 francs à l'époque, était-ce la collection Liber, je ne sais plus.
Librio.
Librio. Vous aviez publié un livre, comment ça s'appelait
Auschwitz Graffiti.
Voilà.
Et, graffiti par dérision.
Et vous aviez relevé tout ce qu'avaient pu inscrire certaines personnalités françaises dans le livre d'or.
Pas seulement françaises, étrangères aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en poste en Pologne, à Cracovie, et sachant que Jacques Chirac devait venir en Pologne, un diplomate de l'ambassade, peut-être pour préparer l'inscription future de Jacques Chirac et se faire bien voir de l'Élysée, m'avait demandé, puisque j'étais pas loin d'Auschwitz, à Cracovie, si je pouvais pas relever les inscriptions des chefs d'État et de gouvernement français qui étaient venus avant de Gaulle. Alors, j'y suis allé, ça m'a beaucoup intéressé. Et puisque j'étais là, j'ai noté aussi toutes sortes d'inscriptions de Fidel Castro et d'autres personnages de 1967 à l'époque où j'y suis allé, c'est-à-dire 96, 15 ou 16, oui. Et alors j'avais relevé, bien entendu, l'inscription de Gaulle.
Et cette inscription donne littéralement froid dans le dos, ouvre des abîmes sous la rétine, alors que les autres se contentent de plaintes déplacées en ce lieu, n'est-ce pas, Adrien Le Bihan ?
Oui. De Gaulle avait écrit ceci, et certains le lui ont reproché. À Auschwitz, quelle tristesse, point d'exclamation. Quel dégoût, point d'exclamation. Et malgré tout, quelle espérance humaine. Et alors certains ont cru, ils se sont dit, c'est pas possible qu'il ait écrit espérance humaine à Auschwitz, ça doit être expérience. Et c'est, je crois, Jean Mauriac qui a rectifié pour l'AFP ou pour je ne sais quel organisme,
oui.
et qui a rétabli le texte. Et très souvent, on le trouve incorrectement cité, ce texte. Et en réalité, ce texte est dans le droit fil de l'appel du 18 juin, en réalité, si on regarde bien. Parce que De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, raconte, expose comment il a décidé, en fait, de continuer à se battre jusqu'au bout. C'est pendant la débâcle au mois de mai 1940, des routes militaires et civiles aussi, puisque les civils sont sur les routes et que les soldats français doivent jeter leurs armes, les Allemands, ils n'en ont même pas le temps de vous faire prisonnier, déguerpisser. Et De Gaulle écrit dans ses mémoires ce qu'il a pensé alors. « La guerre commence infiniment mal, il faut donc qu'elle continue. » Extraordinaire relation de cause à effet. Et il dit « Ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je l'ai décidé. » Mais c'est exactement, c'est à partir de l'abîme qu'on va vers le salut, c'est à partir du mal radical qu'on va vers l'espérance, et c'est ce qu'il a écrit à Auschwitz.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, avec Adrien Le Bihan, auteur de Gaulle, écrivain. Prise de son, Marie-Thérèse Ferrand. Réalisation, Franck Lilin. Je vous rappelle que vous pouvez visiter, niché dans celui de France Culture, le site de Tire ta langue. Et y laissez, au besoin, vos avis et commentaires.